Alphonse Daudet, La maison au bord de la mer. Nous courions depuis le matin vers la plaine, cherchant la mer qui nous fuyait toujours dans ses méandres, ses caps, ses presqu'îles que forment les côtes de Bretagne. De temps en temps, un coin bleu marine s'ouvrait à l'horizon comme une échappée du ciel plus sombre et plus mouvant. Mais le hasard des routes et tortueuses qui font rêver d'embuscades et de chouanneries refermait vite la vision entrevue. Nous étions arrivés dans un petit village vieux et rustique, aux rues sombres, étroites à la façon des rues algériennes, encombrées de fumier, d'oies, de bœufs, de pourceaux. Les maisons ressemblaient à des huttes, avec leurs portes basses, ogivales, encerclées de blanc, masquées de croix à la chaux, et leurs volets assujettis par cette longue barre transversale qu'on ne voit que dans les pays de grand vent. Il avait pourtant l'air bien abrité, bien étouffé, bien calme, le petit bourg breton. On se serait cru à 20 lieues dans l'intérieur des terres. Et tout à coup, en débouchant sur la place de l'église, nous nous trouverons entourés d'une lumière éblouissante, d'une prise d'air gigantesque, d'un bruit de flot illimité. C'était l'océan. L'océan immense, infini, et son odeur fraîche et salée. Et ce grand coup d'éventail que la marée montante dégage de chaque vague dans son élan. Le village s'avance, se dresse au bord du quai, la jetée continuant la rue jusqu'au bout d'un petit port où sont amarrées quelques barques de pêche. L'église dresse son clocher en vigie près des flots et autour d'elle, derrière limite de ce coin de terre, le cimetière met des croix penchées, des herbes folles et son mur bas tout effrité où s'appuient des bancs de pierre. On ne peut vraiment trouver rien de plus délicieux, de plus retiré, ce petit village perdu au milieu des rochers. Intéressant par son double côté, marin et pastoral. Tous pêcheurs, tous laboureurs, les gens d'ici ont l'abord rude, peu engageant. Ils ne vous invitent pas à rester chez eux, au contraire. Mais peu à peu, pourtant, ils s'humanisent. Et on est étonné de voir dessous leur cœur pareil, des accueils des êtres naïfs et bons. Ils ressemblent bien à leur pays, au sol caillouteux, rocailleux et résistant, si minéral que les routes, même au soleil, prennent une teinte noire pailletée d'étincelles, de givre et d'étain. Ce sont les éboulements des falaises à pic des grottes creusées par la lame, où elle s'engouffre et rugit. Et lorsque la marée se retire, on voit des écueils à perte de vue, sortant des flots leurs os de monstres, tout reluisants et blanchis d'écume, comme des cachalots creux gigantesques échoués. Par un contraste singulier, à 2 pas seulement du rivage, des champs de blé, de vigne ou de luzerne s'étendent, coupés, séparés par de petits murs hauts comme des haies et verts de ronces. L'œil fatigué du vertige des hautes falaises, ces abîmes où l'on descend avec des cordes scellées dans la pierre, des brisants furieux, écumeux, trouve un repos au milieu de l'uniformité des plaines, de la partie intime et familière. Le moindre détail, rustique, s'agrandit sur le bord glauque de la mer, toujours présente au détour des sentiers, dans l'entre-deux des toits, l'ébréchement des murs au fond d'une ruelle. Le chant des coqs semble plus clair, entouré de plus d'espace. Mais ce qui est vraiment beau, c'est l'amoncellement des moissons au bord de la mer, les meules dorées au-dessus des flots bleus, les airs où tombent les fléaux à mesure, et les groupes de femmes sur les rochers à pic, prenant la direction de l'air et vannant le blé entre leurs mains levées avec des gestes d'évocation. Les graines tombent en pluie régulière et très drues, tandis que le vent de la mer emporte la paille et la fait tourbillonner. On vanne sur la place de l'église, sur le quai, jusque sur les jetées, où de grands filets de pêche sont étendus, en train de sécher leurs mailles entremêlées des plantes d'eau. Pendant ce temps-là, une autre moisson se fait aussi, mais au bas des rochers, dans cet espace neutre que la marée envahit et découvre tour à tour. C'est la récolte du goémon. Chaque lame, en déferlant sur le rivage, laisse sa trace en une ligne ondulée de végétation marine, goémon ou varech. Et lorsque le vent souffle, les algues courent en bruissant le long de la plage, et aussi loin que la mer se retire sur les rochers, ses longues chevelures mouillées se perdent et s'étendent et s'élèvent. On les recueille par lourdes grappes, l'herbe, et on les amoncelle sur la côte en meules sombres, violacées, gardant toutes les teintes du flot avec des irisements bizarres de poissons qui meurent ou de plantes qui se fanent. Et quand la meule sèche, on la brûle et on en tire de la soude. Cette moisson singulière se fait avec les jambes nues, à marée descendante, par ces mille petits lacs si limpides que la mer, en se retirant, laisse à sa place. Hommes, femmes, enfants s'engagent entre les roches glissantes, armés d'immenses râteaux, et sur leur passage, les crabes effarés se sauvent, s'embusquent, s'aplatissent, tendent leurs pinces, et les chevrettes transparentes se perdent dans la couleur de l'eau troublée. Le goémon ramené, amassé, est chargé sur des charrettes attelées de bœufs sous le joug, qui traversent péniblement, la tête basse, le terrain accidenté. De quelque côté qu'on se tourne, on aperçoit de ces attelages, et parfois à des endroits presque inaccessibles, où on arrive par des sentiers abrupts, un homme apparaît, conduisant par la bride un cheval chargé de plantes tombantes et ruisselantes. Vous voyez aussi des enfants transportés sur des bâtons croisés en brancard, leur glande de cette moisson même. Tout cela forme un tableau mélancolique et saisissant. Les goélands épouvantés volent en criant autour de leurs œufs. La menace de la mer est là, et ce qui achève de solenniser ce spectacle est que pendant cette récolte faite au sillon de la vague comme pendant la moisson de la terre, le silence plane, un silence actif, plein de l'effort d'un peuple en face de la nature avare et rebelle. Un appel au bœuf, un brrrr aigu qui sonne dans les grottes, voilà tout ce que l'on entend. Il semble qu'on traverse une communauté de trappistes, un de ces couvents où l'on travaille en plein air avec une loi de silence perpétuel. Les conducteurs ne se retournent pas même pour regarder passer, et les bœufs seuls vous fixent d'un œil, gros œil immobile. Pourtant, ce peuple n'est pas triste, et le dimanche venu, il sait bien s'égayer et danser les vieilles viandes bretonnes. Le soir, vers 8 heures, on se réunit au bord du quai devant l'église et le cimetière. Ce mot de cimetière a quelque chose d'effrayant, mais l'endroit, si vous le voyez, ne vous effraierait pas. Pas de bruit, ni d'ifs, ni d'arbres, rien de convenu ni de solennel, seulement des croix dressées où les mêmes noms se répètent souvent, plusieurs fois, comme dans tous les petits pays dont les habitants sont alliés. L'herbe haute, toute pareille, et les murs si bas que les enfants y grimpent dans leur jeu, et que les jours d'enterrement, on voit de dehors l'assistance agenouillée. Au pied de ces petits murs, les vieux viennent s'asseoir au soleil effilé pour dormir entre l'enclos inculté silencieux et l'éternité voyageuse de la mer. Et c'est là, devant, que la jeunesse vient danser le dimanche soir. Et pendant qu'un peu de lumière monte encore des vagues au long de la jetée, les groupes de filles et de garçons se rapprochent, les rondes se forment, et une voix grêle part d'abord toute seule, une voix simple qui appelle le cœur après lui. C'est dans la cour du plat d'étain que toutes les voix redisent ensemble. C'est dans la cour du plat d'étain. La ronde s'anime, les cornettes blanches tournoient, s'entrouvant sur des hommes comme des ailes de papillon, et presque toujours le vent de la mer en emporte la moitié des paroles. Perdu mon serviteur, donnera mes couleurs. La chanson apparaît encore plus naïve et charmante, entendue par fragments, avec des illusions bizarres, telles qu'en renferment les chansons déjà improvisées en dansant, plus soucieuse du rythme que du sens des mots. Sans autre lumière qu'un vague rayon de lune, la danse semble fantastique. Tout est gris, blanc ou noir, par une neutralité de teinte qui accompagne les choses rêvées plutôt que les choses vues. Peu à peu, à mesure que la lune monte, les croix du cimetière, celles du grand calvaire qui est au coin, s'allongent, rejoignent la mer et la ronde et s'y mêlent. Enfin, 10 heures sonnent, on se sépare, chacun rentre chez soi par les ruelles du village d'un aspect étrange en ce moment. Les marches ébréchées des escaliers extérieurs, les coins de toit, les hangars ouverts la nuit entre trous noirs et compacts se penchent, se contournent, se tassent. On longe les vieilles murailles, frôle de figuiers énormes, et pendant qu'on écrase en marchant la paille vide du blé battu, l'odeur de la mer se mêle au parfum de la moisson et des étables endormies. La maison que nous habitons est dans la campagne, un peu hors du village. Sur la route, en revenant, nous apercevons à la pointe des haies des lumières de phares loin de tous les côtés de la presqu'île. Un phare à éclats, un feu bruyant, tourbillonnant, un feu fixe. Et qu'on ne voit pas l'océan, toutes ces vigies de noirs écueils semble perdu dans la campagne paisible.